Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième journée du séminaire Urgence climatique et éducation. Alors, il y a une petite modification de programme. Madame Gibérienne ne pourra pas être présente malheureusement ce matin suite à un léger accident. Rien de grave, mais elle ne pourra pas être présente. Donc, ça sera, j'ai l'honneur d'accueillir Mika Mered qui a accepté donc, d'inaugurer cette troisième demi-journée thématique. Et donc, on fera une pause après le deuxième intervenant, donc après M. Guibon. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Merci, Marina. Ah, les micros ici n'ont pas l'air de marcher.
Les micros, s'il vous plaît.
Parfait. Voilà, ça marche. Bon. Donc, bonjour à tous. Bonjour, rebonjour, du coup, on va dire ça à ceux qui étaient déjà là hier. Merci de votre fidélité. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre sur ce qu'on s'est dit hier, toujours dans le cadre de la sortie de mon livre et tout ça, machin truc, ça vous connaissez maintenant. Je vais vous proposer de parler de deux sujets un peu plus, on va dire, touchy, le sujet de l'énergie et le sujet donc de la mobilisation par rapport aux questions de consommation, qui est le titre de cette présentation. Pour cette présentation, vous avez évidemment les éléments du livre, mais vous avez aussi, gratuitement, des éléments de cette note que j'ai réalisée pour l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, publiée en janvier dernier, sur le thème, comme vous le voyez ici, des métaux critiques de l'hydrogène et des potentiels éoliens pour l'Arctique. Donc celle-là, elle est disponible gratuitement si vous ne voulez pas me donner 2 petits euros pour mon livre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Plus sérieusement, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec l'idée principale, qui est aujourd'hui comment on approche, d'un point de vue géoéconomique, les questions du développement de l'Arctique. Alors je vous propose quelque chose de relativement simple, mais qui devrait pouvoir être mémorisable et efficace. Donc l'idée, c'est qu'au départ de tout, quoi qu'on fasse en Arctique, qu'on soit dans une sphère publique, privée, un investisseur, je ne sais quoi d'autre, un activiste, on va toujours partir évidemment de la science. Et cette idée de « science to policy », c'est vraiment l'élément clé à la fois de la manière dont les politiques publiques arctiques sont en train d'être développées, conçues, mais aussi c'est l'élément clé de la diplomatie aujourd'hui dans le Grand Nord. La diplomatie scientifique, et c'est quelque part ce qu'on fait là aujourd'hui, est à la base de tout. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a autour ? On a évidemment la question des conditions opérationnelles et la question des innovations qui permettent de régler des problèmes de conditions opérationnelles, c'est ce que j'ai évoqué hier. Il y a évidemment des questions d'accélérateur. Par accélérateur, j'entends accélérateur de marché, accélérateur de mobilisation politique, accélérateur de développement à l'échelle locale, à l'échelle globale, peu importe. Mais avec ces accélérateurs viennent évidemment des freins géopolitiques, bien sûr, qui peuvent être aussi bien en Arctique comme hors de l'Arctique, et avoir des impacts sur le développement de l'Arctique. Ça va ? J'ai perdu tout le monde ? Personne, ça va ? Tout le monde peut-être ? Je ne sais pas. Bon. Et le dernier point, au-delà des freins géopolitiques, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté des accélérateurs économiques avec des freins de marché. Notamment, par exemple, je l'ai évoqué hier, sur le développement du transport maritime, la question, par exemple, des freins avec les premiums d'assurance, typiquement, ou les difficultés d'innovation en matière de construction navale pour développer des grands navires brise-glace porte-conteneurs, par exemple. Et donc le dernier point, en fait, plutôt, pardon, c'est la question des responsabilités sociétales. Et là, on peut évoquer la notion de CSR en anglais de deux manières. Vous pouvez dire que c'est de la company or corporate social responsibility, donc la responsabilité sociale d'entreprise, mais vous pouvez aussi dire qu'on peut parler de country social responsibility. Et par country, j'entends évidemment la responsabilité sociale des pays de l'Arctique en Arctique, en particulier des décideurs dans les capitales qui sont au sud de l'Arctique par rapport à leur population arctique qui ne sont donc pas toujours décideuses, mais aussi on peut entendre tout simplement la responsabilité sociale des États non arctiques qui sont en fait les centres soit de transformation de produits, soit les centres de consommation. Donc ici le CSR est une notion en elle-même qui en Arctique pourrait avoir plusieurs dimensions. Donc hier je vous ai dit que l'Arctique, en prenant l'exemple du transport maritime, était un enabler, un encapaciteur de solutions et de transition surtout, parce que les solutions, elles peuvent être pour le pire, et les solutions, elles peuvent être pour le meilleur, donc tout n'est pas évidemment une solution. Donc prenons le terme transition, c'est un peu plus neutre. Et lançons-nous donc dans la question des énergies, joyeusement, en se parlant du pétrole, que tout le monde adore dans cette salle et ailleurs, et du coup je vais jouer un petit peu avec vous, je vais demander d'après vous, comme ça, à l'arrache, c'était en quelle année la première exploitation de pétrole en Arctique ? Comme ça, à l'arrache, allez-y, donnez-moi des dates. 1978, c'est moins. Enfin, c'était avant. 60, c'était avant. 50, c'était avant. 1890, c'était après. On exploite du pétrole, enfin des hydrocarbures en général en Arctique depuis 1922. Ce que vous voyez ici, c'est donc une image d'archive, tout simplement, du premier champ qui a été développé en Arctique. Petite quantité, évidemment, à l'époque, mais haute symbolique pour nous, surtout aujourd'hui. Donc c'est le champ de Norman Wells, qui est au territoire du Nord-Ouest canadien, qui n'est pas sur la côte de l'océan Arctique, hein, mais il n'empêche que donc c'est le premier champ qu'on a fait. Je vais jouer une deuxième fois avec vous. Alors, ici, vous avez un extrait d'une dépêche d'agence. Un pétrolier brise-glace transportant 150 000 tonnes de marchandises, donc de pétrole, parce que c'est un pétrolier, vient juste de traverser le passage du Nord-Ouest, acheminant du pétrole arctique sur la côte est des États-Unis, sous-entendu depuis l'Alaska. Alors, d'après vous, elle date de quand, cette dépêche? Alors, on va faire pareil, hein, une année à l'arrache.
34,
ah, c'est après. 83, c'était avant. Et une dernière? 65. C'est pas loin. C'est 1969 qui, au-delà d'être une année érotique, est donc du coup l'année où nous avons développé, en nous, humanité, le transport maritime de pétrole à travers l'Arctique, depuis les centres de production au centre de consommation. 1969, vous faites le calcul, ça fait un demi-siècle qu'on transporte du pétrole par l'Arctique. Donc 100 ans d'exploitation, 50 ans de transport, ça fait quand même pas mal. Et aujourd'hui, si on va par exemple dans l'Arctique russe où les chiffres sont faramineux, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, mais il n'est représentatif que de l'Arctique russe pour l'instant. Cette Arctic Zone de la Fédération de Russie que j'ai évoquée hier, vous avez vu, hein, donc juste les territoires qui sont au nord du cercle polaire. Hein, là, on n'est même pas encore dans la logique géoéconomique, on prend toutes les zones avec des difficultés opérationnelles similaires à l'Arctique. Eh bien, vous voyez que ça représente déjà 10% du PIB fédéral russe, 20% des exports, 20% du pétrole, 50% si on ajoute le Khantymansi, je vais vous en parler dans deux secondes, 80% du gaz naturel de la Russie totale, hein, 60% du cuivre, 100% des terres rares, et ainsi de suite. Ces chiffres-là, c'est la réalité stratégique à partir de laquelle les Russes travaillent quand ils nous parlent de l'Arctique. Ce n'est pas la nôtre de réalité, hein, mais en tout cas, c'est la leur. Et en particulier, si vous allez dans le district autonome de Yamalo-Nenetsi, anciennement district Oural, sous l'ère soviétique, ce que vous voyez ici, c'est la péninsule de Yamal dont on a beaucoup parlé, puisque vous avez là-dessus les méga-champs, par exemple, de Bovanenkovo, où vous avez évidemment le grand projet Yamal LNG que j'ai évoqué hier et que vous connaissez tous. Mais il y a aussi le grand projet Arctic LNG 2, ici sur la péninsule de Guidan. Et puis il y a Arctic LNG 1, Arctic LNG 3, il y a tout ça qui se développe dans cette région-là, qui représente donc 80% à elle toute seule, 80% de la production de gaz naturel russe aujourd'hui. À elle toute seule. Et si, quand je vous parlais du pétrole il y a deux secondes, je vous ai dit il y a 20% du pétrole russe qui est produit en Arctique, bon, si on ajoute cette région-là, la région juste frontalière en dessous, le Khantymansi produit à lui tout seul 50% du pétrole russe. Donc en réalité, ici dans ces zones avec des difficultés opérationnelles arctiques ou qu'on pourrait qualifier de similaires à l'Arctique, vous avez en gros 80% du gaz russe et presque 70% du pétrole russe qui est produit. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Et ça va ne faire qu'augmenter. Ça ne va faire qu'augmenter et aussi partir de plus en plus au nord, mais surtout de plus en plus vers l'est. Et ce que vous voyez ici, c'est tout simplement les trajets des différents navires qui sont allés repérer, explorer les capacités, les champs pétroliers et gaziers potentiels offshore dans la partie orientale, comme vous le voyez ici, du passage du nord-est. Ici, on est au détroit de Bering, hein, tout en bas à droite de la carte, on est au détroit de Bering. Et ici, on est un peu plus à l'est que la péninsule de Yamal que j'ai évoquée juste à l'instant. Donc là-dessus, vous voyez déjà qu'il y a, sur l'année 2018, pas mal de projets, ou en tout cas d'études qui sont faites. Et c'est normal, parce que l'Arctique, et c'est ça aussi qui a changé depuis la décennie 2010, l'Arctique, c'est rentable intrinsèquement. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait surtout l'Arctique Alaskan, donc c'est-à-dire en fait Prudhoe Bay, hein, pour faire très simple, je pense que chacun connaît Prudhoe Bay ici, qui était rentable. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'Arctique qui devient rentable. Et en fait, ce que vous voyez ici, je ne vais pas vous l'expliquer très en détail, mais l'idée, très simplement, c'est de se dire que qu'on soit dans un scénario de pétrole bas, à $50 de moyenne, ou qu'on soit dans un scénario de pétrole cher, enfin très cher, à 100 dollars de moyenne. Il n'empêche que dans les deux scénarios, aujourd'hui, beaucoup de champs arctiques et en particulier des grands champs qui peuvent alimenter comme ceux de Yamal le marché mondial sont bien rentables. Parce que ce qui s'est passé en fait en 5 ans, et c'est une conséquence en fait des sanctions que les Européens et les Américains ont pris contre la Russie, paradoxalement, c'est que les champs pétroliers, gaziers, arctiques ont vu leur seuil de rentabilité, donc c'est-à-dire le seuil à partir duquel un dollar investi permet de ramener plus d'un dollar de retour sur investissement, eh bien, ont baissé. Typiquement, ici, vous avez un champ offshore, le champ de Johan Castberg, qui est en mer de Barents, donc qui est libre de glace toute l'année, comme vous le savez, on l'a dit hier, au nord de la Norvège, et qui appartient à Equinor, la grande major norvégienne d'État. Johan Castberg savait un seuil de rentabilité en 2014 estimé à 80 dollars le baril, et puis, à la suite d'un certain nombre d'innovations, de R&D, de changements managériaux, de nouvelles approches, de meilleures connaissances de l'Arctique aussi, et ainsi de suite, ce champ est tombé en moins de 5 ans, de 80 dollars à 32 dollars le baril de seuil de rentabilité. Et, by the way, tout ce que vous voyez ici, la future architecture, que ce soit le FPSO qui est là ou que ce soit la future architecture, donc de petits puits, tout ça, c'est du français, soit en passant. Donc, ce n'est pas Total qui fait, mais il y a d'autres boîtes. Donc, en Arctique, en quelques chiffres pour recontextualiser tout ça, les ressources conventionnelles de l'Arctique, et j'insiste sur le terme conventionnel, estimé en 2008 par le service géologique américain, c'est 412 milliards de barils équivalent pétrole, au mieux, à découvrir en Arctique. Ce ne sont pas des réserves prouvées. Ce sont des réserves potentielles, des ressources potentielles à découvrir. 412 milliards de barils équivalent pétrole, ça représente 1,8 fois l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que Michel Rocard, en son temps, appelait l'Arctique le deuxième Moyen-Orient. By the way. Donc, qu'est-ce que ça représente tout ça? Ça représente énormément, bien sûr, mais surtout, sur quelle expertise se base-t-on aujourd'hui pour se dire que tout ça est exploitable potentiellement? Eh bien, elle se base sur cette expertise-là. En 100 ans, on a découvert en Arctique, si on prend pétrole, gaz, tout confondu, plus de 400 champs différents. Et donc sur ces 400 champs, tous ne sont pas exploitables, tous ne sont pas rentables, tous ne sont pas intéressants, mais il n'empêche que pour d'une part les trouver et d'autre part en affiner l'analyse, on a foré plus de 15 000 puits en Arctique en 100 ans. Et si vous voulez une idée de l'accélération, on a foré à peu près 10 000 entre 1922 et 2010 et 5 000 depuis 2010, grosso modo. Et donc les seuils de rentabilité, ils sont assez intéressants. Et notamment, regardez sur Yamal LNG, quand Yamal LNG a été lancé, donc c'est-à-dire au début des années 2010, on n'avait aucune véritable certitude que les seuils de rentabilité pourraient s'effondrer comme ça. Enfin, s'effondrer, donc, c'est-à-dire devenir de plus en plus intéressant. Et ce que Total et ses partenaires sur Yamal LNG nous disent, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la phase 1 du projet, et le moindre baril de gaz, donc c'est un baril of oil equivalent, c'est pour ça que c'est BOE, le moindre baril qui est extrait, a un seuil de rentabilité aujourd'hui en phase 1 de 45 dollars le baril, mais en phase 2, donc c'est-à-dire dans le courant des années 2020, quand la production sera vraiment streamlined, comme on dit en bon français, eh bien on arrivera, selon eux, à 30 dollars le baril. C'est une véritable révolution, parce que ça permet de changer complètement la façon dont le marché arctique est approché. Jusqu'à maintenant, les Russes, quand ils développaient des champs comme Bovenenkovo, encore le dernier grand champ de Gazprom dans la zone Yamal, ils faisaient un pipeline, ça coûtait la peau des fesses, et ça permettait de connecter le champ A, ici Bovenenkovo, péninsule de Yamal, qui est donc ici, comme vous le voyez, et le connecter au centre de consommation B, qui sont les centres de consommation européens. Passer tout ça via la Mongolie ou via l'Altaï, via je ne sais quoi, pour aller en Chine, c'est compliqué. Donc du coup, le GNL permet en fait tout simplement de flexibiliser le marché et tout simplement d'extraire du gaz en Arctique et de le vendre n'importe où dans le monde, au plus offrant des traders, tout simplement. Donc, ce que vous voyez petit à petit, c'est l'émergence d'un système où vous avez des grands champs énergétiques, là j'ai pris Yamal et Arctic LNG 2, mais on aurait pu en prendre d'autres qui sont en développement aussi, des grands champs arctiques ici, le gaz est extrait, il est liquéfié sur place, ce qui est beaucoup plus économique en fait que de le faire par exemple dans le désert australien, parce que pour liquéfier du gaz, il faut le faire descendre à moins 163 degrés. Donc si vous partez d'une base où il fait moins 55 degrés dehors, c'est quand même un petit peu moins calorifiquement, énergétiquement coûteux que de partir du désert australien ou du Qatar où il fait 55 degrés positif. Vous voyez très bien ce que je veux dire par là. Donc, du coup, c'est un champ qui est qualifié, et c'est ça qui est paradoxal, de low cost. Le gaz arctique aujourd'hui, c'est un gaz low cost. Et ça, c'est un vrai changement. L'autre changement, c'est qu'on a développé un certain nombre de navires, des navires méthaniers brise-glace. Là, pour Yamal LNG, ils en ont commandé 15. Pour Arctic LNG 2, ils en ont commandé 17. Chacun de ces navires peut transporter 173 000 mètres cubes de gaz par rotation, vous l'avez compris. Et donc l'idée, c'est que ces méthaniers brise-glace partent d'ici et puis s'arrêtent aux confins de l'Arctique, aux frontières, là où il n'y a plus de glace, histoire justement, comme on l'a dit hier sur les futurs marchés de containers, d'optimiser au maximum ce marché. Donc là, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez, à la frontière de l'Arctique, tout simplement transborder votre gaz vers des navires conventionnels, méthaniers classiques, qui après vont se charger de faire le reste de la route. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, et voilà un petit peu comment ce marché des hydrocarbures se développe en Arctique, et voilà la raison pour laquelle Poutine, depuis maintenant moins d'un an, dit tout simplement dans tous les sommets internationaux, il faut une transition énergétique à l'échelle mondiale. Et maintenant, alors sans reconnaître que, évidemment, le changement climatique que nous connaissons est la main de l'homme, ça il ne le reconnaît toujours pas, mais à la limite, on s'en fiche, ce qu'il dit, c'est « nous savons que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète ». Vladimir Poutine, hein. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Et la raison est très simple. C'est que, finalement, les États-Unis ont beaucoup de ressources, comme vous le savez, mais les ressources énergétiques américaines ne sont pas forcément aussi low cost que celles que vous voyez ici en Arctique. Et la Russie se dit tout simplement que si le monde pouvait transitionner vers le GNL, le gaz naturel, eh bien la Russie pourrait capter une part de marché dans le marché global des hydrocarbures plus importante qu'en laissant tout simplement le marché continuer aujourd'hui sur une base pétrole-gaz. Donc du coup, et ne parlons même pas du charbon. Donc du coup, ce que Poutine essaie de nous dire, c'est faites la transition énergétique, mais pas trop vite. Utilisez bien le gaz comme énergie de transition longue pendant 50, 70 ans. Comme ça, on s'en met autant que possible dans les poches, nous, la Russie. On se reconstitue une puissance, etc., etc. Ne transitionnez pas trop abruptement. Et c'est dommage, parce que finalement, l'Arctique, ça rime avec transition énergétique. Et ce n'est pas qu'une question langagière. Là, ce que vous voyez, c'est le projet de biodôme qui est en développement actuellement autour de Reykjavik, en Islande. Mais ce n'est pas le biodôme dont je vais vous parler. Je ne vais pas vous parler d'agriculture. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi, ni de nouveaux quartiers. Ce dont je vais vous parler, là, c'est comment, effectivement, on transitionne énergétiquement et vers quoi. Alors là, ici, vous avez une superbe photo publicitaire. Cette photo publicitaire nous vient d'une grande compagnie que tout le monde connaît aujourd'hui, dont le patron a encore fait des frasques d'ailleurs cette nuit, qui s'appelle Tesla. Pas le patron bien sûr, hein, qui est mort, hein. Tesla il est mort depuis longtemps, mais le patron s'appelle Elon Musk avec sa société Tesla, qui donc fait la voiture que vous voyez ici, mais aussi les batteries que vous voyez là, mais aussi va commencer à vous solariser votre maison, de manière à vraiment faire du ce qu'ils appellent « power everything ». C'est le concept, hein. C'est Power Everything, c'est une trademark, bon voilà. Sauf que, quand vous regardez cette photo, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le rêve californien. C'est beau le rêve californien. Moi ce que je vois, c'est des terres rares partout. Voilà, enfin, je dis ça, peut-être que c'est une déformation professionnelle, mais l'important c'est de se dire que, oui, l'Arctique ça rime avec transition énergétique, et si on veut arriver à ça, ces terres rares partout, ce Power Everything, il va falloir taper dans l'Arctique. Alors pourquoi? En l'état, on ne peut pas faire de transition énergétique ni digitale. Voilà, donc rangez vos smartphones, tous là. On ne peut pas faire de transition énergétique ni digitale sans REE, c'est-à-dire Rare Earth Elements, donc terres rares. Alors les terres rares, c'est quoi? Parce que c'est quand même relativement mal connu. C'est en fait une famille de 17 métaux critiques. Et comme vous voyez, vous en avez besoin pour à peu près tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voulez des véhicules hybrides, il vous en faut 5. Vous voulez des turbines éoliennes, il vous en faut 3. Vous voulez des écrans dans tous les sens, il vous en faut 4. Vous voulez des ampoules à LED, il vous en faut. Et ainsi de suite, on peut faire les batteries rechargeables, faire ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'il vous en faut, quoi que vous fassiez. Ça c'est compliqué quand même. Hein. Parce que du coup, si on veut faire des voitures électriques par exemple, il nous en faut 8. Il faut 8 types de terres rares différentes sur la famille des 17. Si vous voulez mes slides, je vous les donne bien volontiers.
Si vous voulez faire un smartphone, il vous en faut 16 sur 17. Et comme vous le voyez, on n'utilise pas le prométhium parce qu'il est radioactif. Voilà. Donc en fait, on fait 16 sur 16, qui est marketable et industrialisable. Sauf que pour faire une tonne de terre rare, il faut... Alors, je ne vais pas vous faire une recette de cuisine, mais il vous faut donc des gaz contenant de l'acide hydrochlorique, il vous faut de la végétation malade, il vous faut des sols contaminés, il vous faut des résidus, il vous faut des déchets radioactifs et des eaux usées acides. Alors évidemment, c'est parce qu'il vous faut pour faire des terres rares, c'est évidemment les by-products, c'est ce que vous produisez en effet, notamment quand vous faites la séparation des terres rares pour pouvoir donc en fait simplement les raffiner. Et ça, c'est le véritable problème auquel nous sommes confrontés. C'est-à-dire qu'en réalité, en imaginant une transition énergétique et digitale sur ce modèle-là, et uniquement sur ce modèle-là, on ne fait qu'en fait déplacer la pollution dans la chaîne de valeur et déplacer la pollution d'un point de vue géographique. Donc c'est très bien, on polluera toujours pas en France, mais on polluera ailleurs, et notamment en Arctique. Mais aussi en Chine. Puisque comme en 1992, Deng Xiaoping, ancien paramount leader du Parti communiste chinois, avait dit, le Moyen-Orient a du pétrole et la Chine a des terres rares. La Chine a des terres rares, la Chine ne contrôle pas 90% des réserves mondiales de terres rares, comme je peux le lire parfois dans la presse, mais elle contrôle 90% du marché des terres rares. Parce que justement, les pays où on aurait pu faire des terres rares ont préféré, évidemment, délocaliser leur pollution en Chine. Ce qui fait que, 20 ans plus tard, on se retrouve avec un marché complètement déséquilibré, comme vous le voyez ici, où en 2018, la Chine produit 120 000 tonnes de terres rares, là où le numéro 2 mondial, l'Australie, n'en produit que 20 000. Et ça n'a évidemment pas s'arranger. Et puis, vous voyez, la liste des autres pays, ce n'est pas des pays où on se préoccupe vraiment de la pollution qu'on y fait. Donc, ça, c'est la situation globale du marché des terres rares. Alors pourquoi ça nous impacte en Arctique? Parce qu'en réalité, la Chine ne se suffit pas à elle-même. Et surtout, la Chine a un petit problème, c'est qu'elle n'arrive pas, elle ne peut pas produire en quantité suffisante pour soutenir la demande du marché de la transition énergétique et de la transition digitale sur les 17 métaux de la famille. Elle ne produit pas les 17. Donc il faut aller chercher d'autres territoires, et c'est là que l'Arctique devient intéressant, et c'est ce que vous trouverez donc dans la note de l'IFRI, c'est la première fois que ça a été fait d'ailleurs, à ma grande surprise quand je l'ai fait, il n'y avait pas eu jusqu'à maintenant de recensement des ressources de terres rares potentielles en Arctique sur cette base-là. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'après la Chine, qui est donc ici en termes là, on se parle de potentiel de ressources, donc on n'est pas sur des ressources prouvées, on est sur du potentiel de ressources, comme pour le pétrole ou le gaz tout à l'heure, ben, vous voyez que l'Arctique, il y en a presque autant. J'exagère, il y en a 20% de moins, mais c'est quand même le deuxième territoire mondial où vous allez trouver des terres rares. Donc, comme je viens de le dire à l'instant, vous le verrez à la maison quand vous re-regarderez ces slides, les réserves potentielles, ça ne veut pas dire des ressources brutes. Je passe les détails là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir la carte des champs en question. Ce que vous voyez, c'est que la Russie est plutôt bien lotie. Ce que vous voyez, c'est que le Canada est bien loti. L'Alaska, pas grand-chose. Les pays scandinaves, pour l'instant la Suède, on sait qu'ils en ont, mais on ne sait pas encore à quelle quantité. On sait que les Norvégiens en ont, mais ils sont tous sous-marins, donc ça va être compliqué à exploiter, mais ce n'est pas infaisable, et d'ailleurs ils s'y mettent. Et enfin, il y a le Groenland. Et pour le Groenland, on ne connaît que le sud. Ce qui est important, c'est la concentration surtout. Typiquement, regardez ce champ-là, Tomtorskoye. Tomtorskoye, c'est 18 millions de tonnes potentielles à 12%. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir extraire à peu près 1 milliard de tonnes pour choper les 18 millions. 1 milliard de tonnes de roches pour pouvoir choper les 18 millions de terres rares. Mais si vous allez par exemple sur le champ de Kringlerne, enfin le dépôt plutôt de Kringlerne au Groenland, pour trouver les 30 millions de tonnes faramineuses, il va falloir miner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parce que la concentration est infinitésimalement plus faible. Donc il ne faut pas juste voir les potentiels, il faut aussi voir les concentrations. Et après, il y a plein d'autres potentiels, comme je vous le disais, Laponie finlandaise, au Groenland ailleurs, Alaska, Arctique norvégien, mais ça, ce n'est pas encore quantifié. Donc voilà un petit peu la carte. Donc on a dit Russie, Canada, Groenland. La Russie, le problème, c'est qu'elle dit, moi, mes terres rares, je les garde pour mon marché, notamment mon marché de la défense. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je donne mes terres rares à la défense, s'il en reste, je les donne à mon reste de l'industrie, et s'il en reste, je le mets sur le marché international. Autant vous dire qu'il n'en reste pas pour le marché international. Donc, la Russie, voilà ce qu'ils font. Mais au-delà de la question de l'extraction pure, qui pollue, il y a aussi la dimension donc séparation-transformation. Et là, vous voyez à quel point l'Arctique, encore une fois, est mondialisé. Si on prend le champ de Tom Torskoye, par exemple, donc il va sortir de terre, comme vous l'avez vu, d'ici 2022, grand max. Hein. En gros, pour extraire et séparer les ressources, il va falloir mettre les ressources sur des camions. Donc, il y a une route qui est en train d'être construite pour aller jusqu'à l'estuaire ici. Là, on va les mettre sur des bateaux brise-glace qui vont aller jusqu'à Arkhangelsk. Là, ils vont être mis sur le chemin de fer construit dans le cadre de Belt and Road, soit dit en passant. Donc, voilà, on descend ici et après, on fait le transsibérien jusqu'à Krasnokamensk, quasiment à la frontière chinoise. Parce que, évidemment, ben, qui sait que ça intéresse le plus ces terres rares russes, finalement, pour celles qui pourraient partir sur le marché international? C'est évidemment les grands centres de production de high-tech, mais aussi turbines, etc., éoliens et compagnie, solaires, et ça se trouve où? En Asie du Nord-Est. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a comme idée. Mais la France sera aussi impactée, parce que typiquement, les ressources, ici par exemple, du dépôt de Netchalacho dans l'Arctique canadien, elles pourraient être séparées par Solvay à l'usine de La Rochelle. Donc typiquement, là aussi, ça nous fait des liens entre la France et l'Arctique. Mais attendons-nous juste un point, et ça va être ma dernière partie de l'intervention, sur le Groenland, et en particulier sur le dépôt de Vanjefjall. Ici, donc on est à la pointe sud, pas tout à fait à la pointe sud du Groenland. On est au sud du cercle polaire, mais on est au Groenland quand même. Donc si on prend le Groenland de manière unitaire, on peut dire que c'est donc un pays, ou en tout cas une entité arctique. Et ce qui est intéressant donc à Kvanefjeld, c'est qu'il y a beaucoup de ressources. Ces ressources sont facilement exploitables. Elles sont rentables. Et il y a de la qualité. C'est la raison pour laquelle nos amis chinois, Shenghe Resources, qui est une boîte privée, mais dont le patron est membre du, parti, et surtout China National Nuclear Corporation, qui est donc une société d'État, se sont tout simplement alliés pour aller voir les Australiens de Greenland Minerals, une petite junior australienne d'investisseurs. Cette junior australienne, elle a pris la licence d'exploration en 2007. Elle a affiné par ses recherches les différentes ressources qu'il pouvait y avoir. Et puis, elle est arrivée en 2011-2012 en disant, voilà, j'ai tant de ressources, c'est hyper qualitatif, ça coûte pas cher, ça intéresse qui ? Et ça a intéressé, évidemment, nos amis chinois. Donc, du coup, vous avez un CAPEX, un OPEX relativement abordable et une construction qui devrait débuter l'année prochaine, 2021, au plus tard, s'ils subissent encore des retards. Une durée de vie potentielle de 37 ans et surtout une extraction toute l'année. Et une extraction de produits qui emmènerait les produits ici directement en Chine. Puisque la JV, la Joint Venture China Nuclear Huasheng Mining, a grosso modo passé un accord avec Greenland Minerals pour acquérir 100% de la production de la mine. Donc autant vous dire qu'ici, vous aviez une mine non chinoise qui est de fait, d'un point de vue purement capitalistique, devenue chinoise. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Ce qui est très intéressant, c'est que la demande de marché, elle est ici, pour les grands types de terres rares dont on a besoin. Donc vous retrouvez l'yttrium, le dysprosium, vous retrouvez le néodymium ici, le praséodymium et le lanthanide ici, le cerium. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point donc, la mine de Kvanefjeld qui est ici, elle est quasiment parfaitement alignée sur les demandes du marché. Et ça, ben, vous ne le retrouvez pas ailleurs, tout simplement. Donc c'est assez important pour nos amis chinois. Et c'est important pour nos amis groenlandais aussi, parce que les Groenlandais cherchent toujours à devenir indépendants. Et pour devenir indépendants, ben, il faut bien qu'ils trouvent environ 600 millions de dollars pour dire aux Danois, c'est bon, on n'a plus besoin de votre subvention annuelle. Sauf que pour trouver ces 600 millions de dollars, bah, il va falloir développer un certain nombre de taxes, de royalties, bref, des revenus d'État. Et le problème, c'est que sur une mine comme celle-là, typiquement, si on regarde uniquement sur le papier, on pourrait se dire, ah, c'est pas mal, cette mine-là, à elle toute seule, elle pourrait permettre de remplir un tiers, à peu près 200 millions de dollars par an, des besoins groenlandais pour se débarrasser des Danois. Vraiment, je fais hyper schématique et j'essaye de faire ça un peu entertaining. Mais vous voyez que normalement, c'est un sujet un peu sérieux. Et donc, du coup, sur ces 200 millions de dollars, le problème, c'est que bah, là, les royalties, 2%, ça, la société, que ce soit Greenland Minerals ou ses amis chinois, seront obligés de les payer parce que les royalties, bah, c'est évalué au moment où vous extrayez la ressource. Mais par contre, l'impôt sur les sociétés que vous voyez là, qui est forfaitaire au Groenland, à 30% pour toutes les boîtes. Bah, là, moi, je peux très bien jouer. Hein. À partir du moment où Shenghe Resources détient des parts et des parts non négligeables de la société Greenland Minerals et à partir du moment où elle est elle-même avec sa filiale avec China National Nuclear Corporation l'acheteur de 100% des ressources de la mine, je peux très bien faire un jeu d'écriture pour en gros dire au Groenlandais, alors la partie groenlandaise du schéma n'a généré aucune thune. Je ne paierai pas d'impôt. Voilà. Je fais très schématique, mais je pense que vous comprenez tous le problème. Donc du coup, à travers ça, ce que la Chine a réussi à faire, c'est à travers des sociétés d'État et des sociétés capitalistiquement liées à des sociétés d'État, tout simplement pénétrer un territoire d'intérêt, le Groenland, à travers une porte d'entrée qui n'est pas opaque ni déguisée, mais qui aurait pu peut-être être ouverte par d'autres, américains, européens. Mais la Chine ne s'arrête pas là. Et je ne veux pas en faire un épouvantail, puisque la Chine propose des solutions aussi en Arctique pour cette transition énergétique. Elle a bien conscience que les terres rares, ce n'est pas la panacée non plus, même si c'est important. Donc ce qu'elle propose, notamment via State Grid Corporation of China, plus grande société chinoise, qui est donc évidemment l'espèce de RTE chinois, donc le réseauteur électrique, c'est l'idée de faire donc ce qu'ils appellent le GEI, le Global Electric Interconnection. Et l'idée, c'est en gros de faire des grands réseaux électriques à des échelles continentales et de les connecter entre elles, donc de manière intercontinentale, via l'Arctique. C'est ce que vous voyez ici. Parce que la géographie de l'Arctique le permet. En gros, ici, détroit de Bering, ça va, c'est 50 km. Et ici, bon, Islande-Groenland, c'est moins de 1000 km. Et puis Groenland-Québec, dirons-nous, c'est Groenland-Canada, pardon, c'est moins de 1000 km aussi. Donc l'Arctique est relativement accessible pour ça, permet des choses que seuls eux, pour le coup, jusqu'à maintenant, ont imaginées. Et la logique de ce projet, c'est en fait d'alimenter ce réseau énergétique mondial avec des ressources hydroélectriques que vous voyez ici, par exemple en Afrique, ou ici au niveau de l'Himalaya, ou là dans l'Arctique russe, du solaire dans la zone intertropicale, et de l'éolien en Arctique. Puisque ce qu'ils ont vu, tout simplement, et ça vous le retrouverez en détail dans la note, c'est que où que vous alliez en Arctique, vous avez des vents qui sont assez réguliers et qui ont une moyenne assez intéressante, de l'ordre de 8 à 12 mètres secondes, qui permettent tout simplement d'avoir des éoliennes qui peuvent fonctionner un maximum du temps, pas de manière optimale, jamais, évidemment, c'est une énergie intermittente, mais pas loin. Donc du coup, voilà le projet dans le cadre des routes de la soie à l'horizon 2050, soutenu par l'ONU, soutenu par la Ligue arabe, soutenu par l'Union africaine, soutenu par des énergéticiens brésiliens, portugais et autres. Donc ça, vous en entendrez forcément, forcément parler. Mais moi, il y a autre chose que j'ai envie de vous proposer. Et ça fait 2 ans que je travaille dessus et j'espère continuer à travailler dessus longtemps parce que je trouve vraiment que c'est là que le potentiel se trouve. C'est qu'en Arctique, vous pouvez développer de l'hydrogène vert à grande échelle. En gros, là, le modèle du LNG, j'en ai encore pour 2 minutes, le modèle du LNG qu'on a évoqué tout à l'heure, le gaz naturel, il a eu une vertu, c'est de montrer que des potentiels de marché comme ceux-là, c'est-à-dire des sites de production en Arctique pour des ressources qui peuvent être après exportées partout dans le monde, ben, on voit que ça marche. Donc du coup, pourquoi ne pas envisager tout simplement de bâtir un système de production d'hydrogène vert en zone arctique, ici, dans le nord de la Norvège, à partir de l'hydroélectricité, l'éolien, si on pouvait l'éviter, parce que ça nécessite des terres rares, mais bon, c'est toujours mieux que de faire du pétrole ou du charbon, bien sûr. La géothermie en Islande, on peut imaginer aussi l'hydroélectricité, par exemple, en Laponie suédoise ou en Finlande. L'hydroélectricité, vous la retrouvez partout ou presque dans l'Arctique russe, grâce aux grands systèmes fluviaux, qui permettent d'avoir une ressource intéressante. On peut envisager de la géothermie ici, sur le Kamchatka, ou sur les Aléoutiennes. Et tout ça, aujourd'hui, la Russie le sait, et la Russie le projette, à l'horizon 2030 et plus. L'Islande et la Norvège, qui produisent 97 et 99% de leur électricité à partir d'énergie renouvelable dès aujourd'hui, disent « nous, nos surplus, on aimerait bien les utiliser, on ne sait pas comment les utiliser, là, on a une possibilité de les utiliser de manière intéressante. » Donc du coup, vous avez un certain, on va dire, alignement des planètes qui est en train de se faire petit à petit. Et vous avez évidemment, du coup, des investisseurs internationaux, qui soient européens, alors en l'occurrence norvégiens, ou ici asiatiques, qui sont en train d'envisager tout simplement des tankers à hydrogène, donc l'hydrogène liquéfié. On peut envisager des solutions à base d'ammonium, on peut envisager des solutions à base de méthanol, on peut envisager plein de solutions différentes pour prendre cet hydrogène vert et l'exporter, flexibiliser le marché. Si on fait ça, peut-être que là, enfin, on aura une solution véritablement viable à l'échelle mondiale pour qu'une nouvelle énergie, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité industrielle, puisse cannibaliser les parts de marché des énergies déjà présentes. Donc en gros, remplacer les fossiles pour toutes ou à minima en partie. Donc là, il y a un vrai potentiel. Et en gros, pourquoi je vous dis ça en conclusion? Parce que d'une part, il faut être positif, parce qu'on a bien déprimé hier. Là, voilà, l'idée, c'est de ne pas trop déprimer ce matin, autant que faire se peut. Voilà. Mais surtout pour vous dire que ce qui se passe en Arctique, que ce soit d'un point de vue industriel ou que ce soit de la mobilisation sociale, et là, ce que vous voyez, c'est une manifestation de Groenlandais contre le développement de l'uranium, donc contre le développement de la mine de Kvanefjell, puisque évidemment, quand vous trouvez des terres rares, elles sont souvent imbriquées avec de l'uranium, et là, en l'occurrence, au Groenland, c'est le cas. Eh bien, tout ce qui se passe en Arctique dépend de nos choix individuels et collectifs partout. Donc, si vous voulez des voitures électriques, ben, c'est bien, mais peut-être qu'on peut faire mieux. Peut-être qu'on peut faire des voitures à hydrogène plutôt. Et tout ça, ça me permet de, en partie, répondre à la question avec laquelle j'ai commencé mon intervention d'hier. Je vous ai demandé, d'après vous, qui est le véritable maître en Arctique? Est-ce que c'est lui? Ben, la réponse est oui, c'est lui. Et oui, c'est lui, parce que l'un va être le producteur, et peut être le producteur d'hydrogène, et l'autre va être le consommateur, peut-être le consommateur d'hydrogène. Merci de votre attention.